Jean Richepin, les enquêtes d'Albert Gonf, l'œil. Lorsque notre vieil ami, le subtil et profond observateur, Albert Gonf, monta dans ce compartiment de première classe, il eut tout de suite le nerf olfactif sollicité vivement, et du même coup, ses facultés d'observation, soudain mises en éveil et en appétit d'étude, par une odeur singulière. Un autre que notre vieil ami Albert Gonf, d'un voyageur quelconque comme vous et moi, un homme ordinaire enfin, eut plutôt fait, en montant dans le compartiment de première classe, quelques remarques plus banales, à savoir, par exemple, qu'il s'y trouvait déjà 7 personnes, que les 4 coins étaient occupés naturellement, que les filets étaient bornés de valises, de petits sacs, de petites caisses, de pique-paquets, que le plancher était jonché, particulièrement devant l'unique place restée libre, et que par conséquent, le nouvel et dernier arrivant gênait tout le monde et allait être le plus gêné encore de tous. Et cet homme extraordinaire, ce voyageur quelconque comme vous et moi, en eut seulement tiré cette conclusion fameuse, fâcheuse. Diable, 14 heures à passer là-dedans, et la nuit surtout. Oh, voilà qui va pas être agréable. J'ai vraiment pas de veine. Après quoi, l'infortuné se fut arrangé pour y vivre tant bien que mal, et eut tâché de s'endormir en rêvant qu'il avait un coin. Au cas où il se fut aperçu de l'odeur sollicitant si vivement le nerf olfactif d'Adalbert Gonf, il n'eut pas cherché matière à conservation, et se fut contenté de penser en bouchant ce nez de son mieux. Et pour comble de guigne, ça sent pas bon, enfin. Telle ne fut pas la pensée de notre vieil ami, subtil et profond observateur, Adalbert Gonf. Sans songer une minute aux conditions inconfortables de ces 14 heures en perspective, sans souffrir de l'odeur ni même trouver d'abord qu'elle ne sentait pas bon, il se dit plus gravement, lui dont les facultés étaient en appétit d'étude, « Voilà une odeur que je ne connais point. Quelle est-elle ?» Et 14 heures de méditation nocturne lui parurent à peine suffisantes au long, patient, sagace et scientifique travail qu'il entreprit aussitôt pour arriver à définir cette odeur, jusqu'à présent notée par son nerf olfactif sous cette modeste rubrique « odeur singulière ». Un autre que notre vieil ami Adalbert Gonf, même en s'attachant à définir cette odeur, n'eut pas d'ailleurs insisté davantage et se fut bordé à déclarer singulière et eut attribué cette singularité au mélange probable des odeurs émises par les 8 voyageurs, leurs bagages, les couvertures, les coussins, les bouillettes et la fumée de la locomotive, amalgamant le tout dans son haleine sulfidrique. Mais le subtil et profond observateur, Adalbert Gonf, ne se satisfaisait pas si aisément. Certes, il reconnaissait dans l'odeur à l'étude tels et tels éléments étrangers qui s'y venaient joindre. Toutefois, bien loin de les confondre avec elle et de croire que elle était, elle si singulière, la synthèse de ces odeurs diverses, il en distinguait très nettement, et elle ne lui en semblait que plus fugitive, singulière, puisqu'elle résistait à la savante analyse par quoi il essayait de l'isoler. comme ces expérimentations physiologiques se conformaient toujours de psychologie, et ce n'est pas seulement au simple contrôle de son air olfactif qu'il soumettait la singulière odeur, notre vieil ami Adalbert Gompf. Et il tâchait aussi de circonvenir en la localisant d'abord dans une des sept personnes occupant le compartiment, et ce par une investigation attentive, minutieuse et perspicace de ces sept personnes dont il reconstituait savamment, au moyen d'inattaquables hypothèses, l'inconnu idiosyncrasie. 7 heures s'écoulèrent ainsi, pour le subtil et profond observateur, à éliminer successivement 4 des personnes à l'étude, dont le physique et le moral, l'un élucidant l'autre, furent jugés par lui comme tout à fait incapables de produire cette odeur singulière. Leurs odeurs, en effet, se caractérisaient définitivement à ces 4 sous des espèces d'odeurs connues qui n'avaient rien de singulier, telles que odeur de pied, odeur d'aisselle, odeur de crasse, odeur de dents cariées. 2 autres voyageurs, étant descendus avant d'avoir été mis à l'éprouvette, et la singulière odeur ayant persisté quand même, mon vieil ami Adalbert Gompf vit heureusement le camp de ses recherches se circonscrire en la dernière personne restée dans le compartiment, seule avec lui. Il faillit s'écrier « Ah, cette fois je la tiens, elle aura beau faire, je l'aurai !» Il pensait à l'odeur, évidemment, à l'odeur seule et non pas à la personne qui était une femme. Mais la science a des enthousiasmes et des odeurs vers la possession, qui sont aussi fortes que les enthousiasmes et les ardeurs de l'amour. Et quoique le grave d'Albert confie manifestement son sentiment à la muette, par sa physionomie seule, la dame s'y méprit et crut qu'elle avait affaire à un satyre. Elle foudroyait notre ami d'un regard fixe et dur qui le cloua en place. Rien ne pouvant échapper à l'attention sagace et toujours aux aguets du subtil observateur, Adalbert Gompf perçut aussitôt quelque chose de singulier qui faillit d'abord le détourner de son étude sur la singulière odeur. Mais, sage et méthodique avant tout, l'avisé savant se ressaisit vite en pensant « Lorsque j'aurai pleinement élucidé le problème de cette odeur singulière, alors seulement il sera temps de passer à l'analyse du singulier regard. » Et sans doute la clé de l'un ne serait-elle fournie par l'autre. Ne chassons pas 2 lièvres à la fois. Et consciencieusement, en toute haute et impartiale probité, il se remit à son enquête interrompue sur la singulière odeur. Mais il se sentait désormais gêné dans ses recherches, gêné par le regard singulier qui ne le quittait pas et pesait sur lui. Quoi qu'il en eût, et malgré son ferme propos de procéder par ordre, il ne pouvait s'empêcher d'étudier en même temps le regard et l'odeur qui avaient entre eux d'étranges et significatives correspondances, comme si ce regard était le regard de l'odeur ou comme si cette odeur était l'odeur du regard. À quoi notre pauvre ami Adalbert Gompf n'osait point s'arrêter, craignant d'être sur le seuil de la folie et se disant toutefois « mais non, il n'est pas possible que moi, Adalbert Gompf, le subtil et profond observateur, je devienne aliéné. Je suis sûr de ma raison, de ma saine et toute puissante raison. Donc, au lieu d'être sur le seuil de la folie, je dois me trouver au contraire, tout près d'une découverte formidable, et sur le point de dégager l'X d'un mystère. À cette idée, ses yeux flambaient d'une telle flamme que la dame, épouvantée, comme on cria le nom d'une station, descendit précipitamment du compartiment d'Albergonf et monta dans la voiture voisine qui était celle des dames seules. Mais le subtil, profond et tenace observateur l'y suivit non moins précipitamment. À peine le train en marche, il s'écria tout ému. Pardonnez-moi de vous importuner, madame, mais c'est plus fort que moi. Je suis le célèbre Adalbergonf, j'observe. Alors, vous comprenez, ce regard, cette odeur, cette correspondance. Il balbutiait éperdu, mais respectueux, et ajoutait vivement. Un seul mot d'explication me suffira, madame. Je dois avoir raison. Je ne peux pas me tromper. Adalbergonf ne se trompe jamais. Rien qu'un mot, je vous en supplie. Est-ce le regard de l'odeur ou bien l'odeur du regard? Tout est là. Mais les deux ne font certainement qu'un. C'était au matin. Le train roulait depuis 12 heures. Tranquillement, la dame ôta de son orbite un œil de verre, un œil qu'elle devait toutes les nuits laisser tremper dans un verre d'eau, et qui n'y avait pas trempé cette nuit-ci. Et Albergonf, le subtil et profond observateur, comprit tout à l'instant même et s'écria triomphalement « J'y suis, ou plutôt j'y étais, mais sans pouvoir définir à présent, enfin, je le puis. Loué soit Dieu, et surtout mon génie, vous puez de l'œil. »